Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Voici le 12e et dernier volet de l'entretien de Roger Caillois au micro de Janine Worms en 1970. Dans cet épisode conclusif, l'écrivain revient sur sa conception de la poésie et ses différends avec les surréalistes. Selon lui, il ne saurait y avoir d'image gratuite en art. La création, même poétique, doit s'exprimer avec clarté. C'est peut-être cette rigueur revendiquée qui valait à Caillois sa réputation d'intellectuel, parfois raide ou rigide. Certains de ses contemporains ou ses biographes y voyaient la marque d'un tempérament inquiet. Un trait de caractère qui éclaire peut-être sa passion tardive pour les pierres, modèle de permanence dans lequel il voyait un exemple de poésie réalisée dans la matière. Voici donc Roger Caillois au micro de Janine Worms, 12e et dernier épisode d'une série d'entretiens diffusée pour la première fois sur France Culture en 1970.
Roger Caillois, à la fin de notre conversation d'hier, qui portait sur le fantastique animal, vous évoquiez la rencontre de formes inattendues et vous disiez que c'était même là la source de l'image poétique. Vous évoquiez même Baudelaire à ce propos et la théorie des correspondances.
Oui, je crois que l'on peut généraliser la théorie baudelairienne des correspondances et que d'une façon générale, l'image poétique vient du rapport de deux réalités éloignées. C'est d'ailleurs la théorie de Reverdy et c'est la théorie surréaliste contre laquelle, pendant de très nombreuses années, je me suis élevé. Je crois d'ailleurs que je continue à ne pas être d'accord. Seulement, j'ai été amené, justement par l'étude du fantastique, à considérer qu'il fallait un peu nuancer les choses. Je crois que la distance est une condition nécessaire de l'image. C'est-à-dire que deux images très rapprochées ne jouent pas, n'ont pas cet effet d'étincelle, d'illumination sur l'imagination qui constitue une des conditions du plaisir poétique. Et surtout, je ne pense pas qu'on puisse, et je continue à ne pas penser, qu'on puisse faire de l'image, comme on le faisait par exemple dans le groupe surréaliste, la condition ou l'apport unique de la poésie. C'est-à-dire de ne pas penser aussi qu'il y a d'autres choses qui interviennent, comme par exemple la versification. Je sais que depuis plusieurs dizaines d'années, on a tendance à opposer poésie et versification. Je crois que c'est une voie aussi dangereuse que la voie inverse. On ne peut certainement pas réduire poésie et versification, mais on ne peut pas les opposer non plus.
Vous confinez-vous à versification ou bien voulez-vous dire prosodie? Parce qu'un des poètes que vous aimez, je crois, le plus, dont vous avez parlé avec tant de science et de sagacité, Saint John Peirce, n'est pas un poète qui écrive des vers.
Ben écoutez, ça, je ne sais pas. Je crois qu'une disposition typographique différente montrerait plus de régularité dans les versets de Saint John Peirce qu'il n'y en a par exemple dans les vers de La Fontaine. Je crois qu'il y a des séries entières de l'ess de Saint John Peirce et qui sont en vers de 8 syllabes, de 10 syllabes ou même des alexandrins purs et simples. Je crois que ce qui s'est passé, si vous voulez, est qu'au début la prose n'existait pas. Tout ce qui se disait était en vers, ou tout ce qui était destiné à rester. Je crois que la poésie est antérieure non seulement à l'imprimerie, est antérieure à la littérature, et même antérieure à l'écriture. Et que l'écriture a été le premier coup porté à la poésie, parce que à partir du moment où on avait les choses écrites, on n'avait plus besoin d'avoir des procédés pour les mémoriser. Et les procédés pour les mémoriser, ce sont les procédé de la prosodie. En effet, je préfère le mot prosodie au mot versification, qui est trop spécial. À partir du moment où l'on écrit avec l'intention, plus ou moins nette, de mémoriser ce qu'on dit, et ceci dans n'importe quel but, y compris les slogans publicitaires ou les chansons, on se sert d'un instrument qui est nécessairement un instrument poétique. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'on puisse séparer totalement poésie et prosodie. Naturellement, au moment où il y a eu, où on n'a plus besoin de ces procédés mnémotechniques, on a eu à sa disposition d'abord l'écriture puis l'imprimerie. Beaucoup de choses, par exemple la science, ou l'histoire, ou les généalogies, ou les traités de physique, comme par exemple De Natura Rerum de Lucrèce est un traité de physique. L'Iliade et l'Odyssée sont des romans feuilletons. Eh bien, à ce moment-là, on n'a plus eu besoin de recourir au vers. Et petit à petit, on s'est débarrassé du vers pour retenir l'autre élément qui est constitutif au même titre de la poésie, à mon avis, et qui est l'image. Mais faire de l'image le seul pilier de la poésie, je n'y crois pas. Je crois que c'est au contraire une démesure. Et surtout, l'image telle que le surréalisme l'a compris. C'est-à-dire l'image qu'il fallait rendre, pour ainsi dire, inimaginable, qu'on ne puisse pas déchiffrer. L'image qui avait comme condition de sa force d'être arbitraire, c'est-à-dire qu'il ne réponde pas à une similitude dans les choses perceptibles ou même dans les choses concevables. L'image qui, tout en étant un produit de l'imagination, était faite pour ne pas pouvoir être représentée, pour ne pas pouvoir être imaginée, pour devenir inimaginable, cette image-là, je pense qu'elle a été absolument néfaste et qu'elle a entraîné la poésie dans une impasse. Parce qu'il faut que les termes de l'image soient distincts, c'est la condition de l'image, c'est entendu, mais il faut aussi que le rapport soit juste et qu'il soit perceptible. Une image arbitraire est une image vaine ou une image nulle.
C'est-à-dire que vous trouvez que c'était l'introduction de la gratuité dans la poésie. Vous accusez donc, en quelque sorte, les surréalistes d'avoir introduit la gratuité dans la poésie. Qu'est-ce qui fait pour vous l'exactitude d'une image ?
Et une gratuité, non pas une gratuité facile, mais une gratuité volontaire, une gratuité délibérée, une gratuité qu'il fallait faire beaucoup d'efforts pour obtenir, puisqu'il s'agissait de désorienter, ou comme l'a dit Paul Éluard, de désensibiliser l'univers, alors qu'au contraire, une image doit pour moi établir des rapports nouveaux, certes, des rapports inaperçus, mais des rapports enrichissants. Je comprends très bien le mot qu'on prête à Gérard de Nerval, le premier qui compara la femme à une rose était un poète, le second était un imbécile. Je comprends bien que les images, petit à petit, se démonétisent, pour ainsi dire, et qu'elles s'usent.
Elles deviennent
lieu commun. Et encore, je ne suis pas sûr qu'elles deviennent lieu commun. Mais je ne suis pas sûr que le processus joue toujours dans le même sens. Je pense qu'il y a des images qui s'enrichissent, qui s'approfondissent, ou qui se rénovent. Au fond, comparer une femme ne ressemble pas à une rose. C'est tout de même très différent visuellement, mais pour la fraîcheur, elles peuvent être comparées. De même qu'Homère, pour remonter aux sources de la poésie, compare Nausicaa à un palmier. Il n'y a pas grand-chose de commun entre un arbre et une jeune fille, sauf justement la flexibilité. Eh bien, il faut toujours qu'il y ait un dénominateur commun entre les deux termes qui sont comparés par l'image, et c'est ce que j'appellerais sa justesse. Vous évoquiez le livre que j'ai écrit sur Saint Jean de Perse. Eh bien, par exemple, quand Saint Jean de Perse parle des neiges et qu'il les compare simultanément à un dahlia blanc et à une chouette qui enfle ses plumes, eh bien, il y a là une image à trois éléments, mais où les trois éléments ont ce que j'appelais à l'instant un dénominateur commun parfaitement identifiable. Et c'est pourquoi, au début, j'ai été dans les impostures de la poésie assez hostile vis-à-vis de la poésie, parce que je pensais que vis-à-vis, non pas de la poésie, mais vis-à-vis de l'image, parce que je pensais que l'image devait être préparée. Par exemple, quand Rimbaud écrit « Trouve des fleurs qui soient des chaises », eh bien, c'est préparé pour que la fleur, à ce moment-là, apparaisse comme quelque chose où on peut se reposer et trouver ses aises comme sur une chaise. Ou bien, comme à l'armée, dit un peu profond ruisseau calomnié la mort, eh bien là, la comparaison de la mort et du ruisseau ne s'explique que parce que, et ne devient forte que parce que la mort est considérée généralement comme un abîme insondable. De sorte que ne pas la comparer à un océan ni même à un fleuve, mais à un ruisseau qu'on qualifie en plus de peu profond, résume très fortement l'impression que veut donner Mallarmé qu'on s'exagère l'horreur de la mort.
Je suis heureuse de vous avoir entendu citer Rimbaud. À mon étonnement à propos de l'image, car Rimbaud me semble d'abord et surtout un poète du concret. Tout est très concret dans Rimbaud. Mais avant de parler de Rimbaud, j'aurais quand même voulu vous poser une question. Dans le tout premier de vos livres, celui qu'on ne trouve pratiquement plus en librairie, qui s'appelle Procès intellectuel de l'art, qui, je crois, a paru en 36, époque
35.
À laquelle, 35 même, époque à laquelle vous aviez des idées très mathématiques presque des choses, vous, il semblait que vous auriez voulu chercher, consacrer votre vie à chercher, en quelque sorte le point d'impact de l'émotion poétique et le moyen précis de toucher ce point défini. Est-ce que cela vous semble toujours possible?
Je crois que ça me semble toujours possible, et ça a été l'exactitude. Ce que j'ai cherché dans la poésie, ce que j'ai peut-être cru qu'elle était faite pour exprimer, c'était une certaine sorte d'exactitude. J'ai regardé, à tort je crois, la prose comme le langage de l'exactitude, et en effet, à ce point de vue-là, la prose tend, disons, vers le langage mathématique ou vers le langage algébrique, c'est-à-dire où chaque signe correspond à une seule signification. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait une autre exactitude qui s'efforçait d'exprimer, non pas par une adéquation parfaite du signe et du signifié, mais au contraire par un système d'évocation reposant sur les souvenirs et reposant sur ces miroirs ou sur ces reflets, sur ces échos dont nous parlions hier, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est parce que l'univers lui-même est fait d'éléments limités que les images peuvent avoir une exactitude. Et comme, eh bien, quelle est cette exactitude ? Par exemple, disons nous parlions également de la table de Mendeleïev. Eh bien, la table de Mendeleïev permet de retrouver les mêmes éléments dans absolument tous les matériaux dont est composé non seulement notre monde, mais tous les mondes possibles. Eh bien, de la même manière, je pense qu'à l'autre extrémité, là où il ne s'agit plus de trouver la structure fine des éléments, leur structure mathématique, mais au contraire, ce par quoi le monde est divers et chatoyant et émouvant, eh bien, là aussi, on peut tracer des courbes qui relient les éléments communs d'une même série. Ainsi, on trace des lignes isothermes. Les géographes ou les climatologues tracent des lignes isothermes pour relier les points où on constate au même moment une même chaleur, une même température, où il y a les isonéphèles, comme ils disent, là, où il y a la même quantité de nuages dans le ciel. Il y a les isobares, par exemple, où il y a la même pression atmosphérique partout. Eh bien, il me semble que les émotions humaines ou les obsessions humaines ou tout ce qu'on peut imaginer ou sentir, eh bien, tout cela aussi se laisse classer. On peut y tracer des lignes qui les relient l'une à l'autre, et deux émotions reliées l'une à l'autre prennent chacune plus de puissance, voient leur puissance multipliée. En plus, cela donne un contentement à l'âme ou à l'esprit qui est de voir l'unité, là où l'on constatait d'abord la diversité, où on en était un peu malheureux. Eh bien, quand on compte, par exemple, un saint John Perse, dont ces très longues énumérations qu'il fait donnent toutes les choses qui ont une certaine couleur violette ou couleur prune, comme il dit, ou quand il décrit tous les tas de cailloux qui sont accumulés, disons, par les caravaniers ou par beaucoup d'autres gens, par des terrassiers, etc., par tous ceux qui traversent des déserts, eh bien, il établit toute une suite de correspondances. Et des correspondances, alors qu'ils ne sont pas entre deux termes, mais entre de très nombreux termes, et cela constitue, à mon avis, une véritable science, mais qui n'est pas une science des structures, qui est une science, disons, des sensations.
Ainsi, pour vous, Roger Caillois, toute poésie n'est pas simplement image, mais c'est très souvent aussi le concret. Je pense que c'est ce qui vous a amené à écrire Pierre.
Ce n'est peut-être pas le concret, c'est la science et l'exactitude. Et ce que j'ai trouvé dans les pierres, eh bien, c'est la permanence, l'éclat et la transparence. Les pierres sont devenues pour moi non seulement un exemple de poésie réalisée dans la matière, mais presque un modèle. un modèle. J'ai défini une fois la poésie comme l'immuable dans l'inépuisable. Eh bien, c'est un peu ce que je trouve dans les pierres, immuable par nature et inépuisable par les rêveries auxquelles elles prêtent.
C'était Roger Caillois au micro de Janine Worms, 12e et dernier volet d'une série d'entretiens diffusée pour la première fois sur France Culture de mars à juillet 1970. Vous pouvez réécouter et podcaster cet entretien sur le site de France Culture, à la page des nuits et sur l'application Radio France.